Merci d'écouter RFI, les 10h à Paris, 9h temps universel. Le journal, Jeanne Bartoli. Bonjour Jeanne.
Et bonjour Chantal et bonjour à tous. Dans ce journal, la pression maximale de Washington sur Volodymyr Zelensky. 3 jours après l'altercation entre Donald Trump et le président ukrainien, les États-Unis suspendent leur aide militaire à l'Ukraine. Les détails à Washington dans un instant. Les États-Unis qui intensifient leur guerre commerciale avec des droits de douane qui sont entrés en vigueur ces dernières heures. 25% de tarifs douaniers sur tous les produits en provenance du Mexique et du Canada. 10% de plus sur les produits chinois. Le Canada et la Chine annoncent des mesures de réciprocité. Au Gabon, Brice Clotaire-Oligui-Nguema a annoncé hier sa candidature à la présidentielle du 12 avril prochain. Et puis en France, la disparition de Jean-Louis Debré, ancien ministre de l'Intérieur, ancien président du Conseil constitutionnel. Il s'est éteint à l'âge de 80 ans. Son portrait dans ce journal. Il a mis sa menace à exécution. Donald Trump a donc ordonné cette nuit la suspension des aides militaires à l'Ukraine, en l'occurrence le versement d'une partie des 66 milliards de dollars d'assistance militaire votée par l'administration Biden. Une majorité de ces fonds a déjà été attribuée. Donald Trump, qui met donc un peu plus la pression sur Volodymyr Zelensky, qu'il accuse de ne pas vouloir la paix avec la Russie. Pression aussi pour que le président ukrainien signe un accord avec les États-Unis sur l'extraction de minerais ukrainiens. Les précisions à Washington avec David Thompson.
Nous marquons une pause et réexaminons notre aide pour nous assurer qu'elle contribue à une solution. Voilà ce qu'annonce la Maison-Blanche dans la soirée après une réunion entre le président et ses ministres de la Défense et des Affaires étrangères. 3 jours après son altercation avec Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale, Donald Trump ne décolère pas. Il suspend toutes les livraisons d'armes à l'Ukraine et ce jusqu'à ce que Zelensky change d'attitude. Quelques heures avant cette annonce, Trump se disait en effet prêt à lui donner une seconde chance de signer l'accord sur les terres rares, à condition, dit Trump en substance, que Zelensky lui présente des excuses.
Qu'attendez-vous du président Zelensky pour relancer ces négociations ?
Je pense qu'il devrait être plus reconnaissant, car notre pays les a soutenus contre vents et marées. On leur a donné beaucoup plus que l'Europe, et l'Europe aurait dû leur donner plus que nous.
Et ce que Trump ne digère pas non plus, ce sont ses propos de Zelensky, affirmant dimanche que la fin de la guerre est encore très loin. Il ferait mieux de ne pas avoir raison sur ce point, dit Donald Trump. David Thompson, Miami RFI.
Et pour l'instant, pas de réaction ce matin de la part de l'Ukraine. Le soutien à l'Ukraine et la sécurité européenne qui seront au cœur d'un sommet. Ce sera jeudi à Bruxelles. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, déclare ce matin que l'accroissement des capacités militaires des Européens pourrait mobiliser près de 800 milliards d'euros. Elle annonce que l'UE va proposer d'accorder à ses membres plus de marge de manœuvre budgétaire afin d'investir dans la défense. Les États-Unis, où doit arriver dans les prochaines heures le ministre israélien d'extrême droite Bezalel Smotrich, partisan de l'annexion de la Cisjordanie. Il annonce une visite éclair dans le pays et une rencontre avec des responsables du gouvernement américain. Alors que le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas ne tient plus qu'à un fil, le gouvernement israélien met la pression sur le Hamas pour qu'il accepte une prolongation de la première phase de la trêve, prolongation aux conditions posées par Israël, ce que le Hamas refuse. Il a intensifié ses dernières heures, sa guerre commerciale sur les droits de douane. Donald Trump a signé plusieurs décrets entrés d'ores et déjà en application. Désormais, tous les produits en provenance du Canada et du Mexique seront taxés à hauteur de 25%. La Chine s'était vue, elle, imposer 10% de droits de douane supplémentaires, une surtaxe qui passe désormais à 20%. Pékin réplique et annonce des taxes de 10 à 15% sur une série de produits agricoles en provenance des États-Unis allant du poulet au soja. Précision Heike Schmidt.
Pékin appuie donc là où ça fait mal. La Chine reste le plus grand marché pour les agriculteurs américains, avec des produits comme le soja, le bœuf ou des céréales importés pour quelque 30 milliards de dollars en 2024. Des guerres commerciales n'ont jamais de vainqueur, a prévenu lundi Lin Xian, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, tout en mettant en garde Washington. La Chine prendra toutes les mesures nécessaires pour défendre ses intérêts. reste que le couperet américain tombe au mauvais moment. À Pékin débute l'Assemblée nationale populaire, le plus grand raout politique de l'année que rien ne doit perturber. Ce mercredi, le premier ministre Li Qiang doit dévoiler ses objectifs de croissance pour 2025. Son discours sera aussi une occasion pour riposter à ce que le gouvernement chinois appelle le chantage américain.
Eike Schmidt est dans le sillage de ces annonces américaines. Les marchés boursiers asiatiques et européens évoluent dans le rouge ces dernières heures. Au Gabon, il a mis fin au suspense. Brice Clotaire-Oligui Nguema a annoncé hier sa candidature à la présidentielle du 12 avril prochain. Il promet de rebâtir le pays, construire un pays prospère. Avec ce scrutin présidentiel, les autorités ont annoncé vouloir un renouvellement de la classe politique, l'avènement d'une nouvelle génération. Mais pour l'opposition, les nouvelles règles du jeu excluent de nombreux cadres de la vie politique, ouvrant ainsi la voie à Brice Oligui Nguema. Explication, Guillaume Thibault.
Dès le 2 septembre 2023, date de la signature de la charte de transition, 4 jours après le coup de libération, comme le nomment les militaires qui ont fait chuter Ali Bongo Ondimba, les analystes politiques notent que Brice Oligui Nguema, président de la transition, sera le seul autorisé à pouvoir candidater à la fonction suprême. Pour les autres cadres de la transition, notamment la présidente du Sénat, Paulette Misambo, il est indiqué dans la charte n'est pas éligible à l'élection présidentielle. Charte de transition qui définit également la tranche d'âge pour être candidat à la tête du Gabon, entre 35 et 70 ans, âge repris dans l'article 43 de la loi fondamentale, une règle qui exclut notamment Pierre Claver Maganga Moussavou. Autre condition qui pourrait réduire le nombre de candidats au scrutin présidentiel, celle liée à la nationalité. Les candidats doivent être uniquement gabonais, précisément être nés gabonais, d'au moins un parent gabonais, être marié avec un ou une gabonaise, et résider au Gabon depuis au moins 3 ans. Fin janvier, Brice Oligui Nguema a vu le dernier verrou qui bloquait sa candidature s'ouvrir. Si les militaires avaient promis de rendre le pouvoir aux civils, le code électoral voté par le Parlement leur permet de se présenter à la présidentielle s'ils démissionnent ou se mettent en disponibilité de l'armée.
Et Guillaume Thibault du service Afrique d'RFI. L'actualité en France, on a appris ce matin la disparition de Jean-Louis Debré, proche de Jacques Chirac, ancien président de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel. Il est décédé à l'âge de 80 ans. Valérie Gasse, Jean-Louis Debré, c'était un personnage marquant de la politique française.
Oui, Jeanne, et c'est à la tête du Conseil constitutionnel que Jean-Louis Debré a occupé sa dernière fonction au service de l'État. Lui, le fils de Michel Debré, rédacteur de la Constitution de la Ve République et Premier ministre du général de Gaulle. Son père, dans les pas duquel il s'était engagé en politique dès 1973 en devenant conseiller de Jacques Chirac, alors ministre de l'Agriculture. Début d'un compagnonnage politique qui durera toujours, même s'ils n'ont pas soutenu le même candidat à la présidentielle de 1974, Jean-Louis Debré préférant le gaulliste Chaban Delmas à Valéry Giscard d'Estaing, soutenu par Jacques Chirac. Il faudra plusieurs tentatives à Jean-Louis Debré pour devenir député. Il entre finalement dans l'hémicycle en 1986 comme député de l'Eure et occupera la fonction prestigieuse de président de l'Assemblée nationale entre 2002 et 2007, une fonction dont il dira que l'occuper fut l'honneur de sa vie. Jean-Louis Debré était un homme de droite, un gaulliste qui fut aussi maire d'Évreux et surtout ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac. Il avait l'humour piquant, se livrait parfois à des imitations de personnalités politiques, Jacques Chirac notamment. Dans sa vie, il a beaucoup écrit et il est même monté sur les planches. Parmi les premières réactions à son décès, celle d'Édouard Philippe qui décrit un personnage truculent et unique, héritier d'une grande famille politique.
Valérie Gasse, chef du service politique d'RFI pour ce portrait de Jean-Louis Debré, a disparu à l'âge de 80 ans. L'actualité, c'est aussi l'inquiétude toujours grande autour de l'état de santé du pape François, hospitalisé depuis le 14 février dernier pour une pneumonie. Il a été victime hier de 2 épisodes d'insuffisance respiratoire aiguë. C'est ce qu'a annoncé le Vatican dans un communiqué. Le pronostic vital du souverain pontife, âgé de 88 ans, reste réservé. L'affaire avait été médiatisée en avril dernier en Suisse. L'association des aînés pour la protection du climat avait remporté une importante bataille judiciaire à la Cour européenne des droits de l'homme. La CEDH avait jugé que la Suisse n'en faisait pas assez pour respecter ses engagements en matière de lutte contre le changement climatique et donc pour protéger sa population, en particulier les plus vulnérables. Un an plus tard, le pays n'a toujours pas agi. Un comité de suivi de la décision de justice se réunit à partir d'aujourd'hui pour décider d'éventuelles sanctions. Enfin, du football et les 8e de finale aller de la Ligue des Champions. 4 rencontres et une soirée qui démarre à 17h45 temps universel. universel avec le club Bruges qui affronte les Anglais d'Aston Villa avant le choc entre le Real et l'Atlético Madrid. Au programme aussi le PSV Eindhoven qui accueille Arsenal et le Borussia Dortmund qui recevra Lille. C'est à suivre sur RFI 10h10 à Paris. Vous restez à l'écoute de la Radio du Monde.